à Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition, les 17h30, temps universel du jeudi 19 décembre 2019. John Lyndon pour vous présenter cette édition, tout d'abord les titres. Le président Donald Trump mis en accusation par la Chambre des représentants. Maintenant, tous les regards sont tournés vers le Sénat. Quelles seront les implications de ce vote historique? Nous aurons l'éclairage de Jim Caesar de l'Université de Virginie. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune a prêté serment pour succéder à Abdelaziz Bouteflika qui a quitté le pouvoir sous la pression de la rue. Et puis, ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a donc voté hier soir la mise en accusation du président Donald Trump sur l'acte d'accusation d'abus de pouvoir. 230 parlementaires ont voté pour, 197 contre et un sans opinion. Quant à l'obstruction du Congrès, 229 ont voté pour, 198 contre et un sans opinion. Ce vote historique s'est fait suivant des lignes très partisanes en voyant le cas devant le Sénat sous contrôle des Républicains. Retour sur une nuit agitée avec Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès. Le récit est d'Idriss Fall.
Present is one. Article 2 is adopted.
Donald Trump est devenu le troisième président en 230 ans d'histoire des États-Unis à être mis en accusation par la Chambre des représentants. Après ce vote historique, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, a averti les démocrates de ne pas trop se réjouir.
Il est tragique que les imprudences du président rendent la mise en accusation nécessaire. Il ne nous a pas laissé d'autre choix.
Le vote a mis fin à 3 mois d'enquête d'une chambre extrêmement divisée. Tout a commencé par un lanceur d'alerte accusant M. Trump d'avoir bloqué près de 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine en échange d'une faveur politique. Le président américain aurait demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival politique, Joe Biden, et son fils Hunter. Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants.
In America, no one is above the law.
Aux États-Unis, personne n'est au-dessus de la loi. Donald J. Trump a sacrifié notre sécurité nationale dans le but de tricher aux prochaines élections. Et pour cela, il a continué à chercher une ingérence étrangère dans nos élections. Il doit être mis en accusation.
S'exprimant hier soir lors d'un meeting dans le Michigan, le président Trump a aussitôt réagi.
Avec cette mise en accusation illégale et partisane, les démocrates qui ne font rien expriment leur profonde haine et dédain pour les électeurs. C'est un suicide politique pour eux.
Tous les républicains de la Chambre sont restés fidèles au président, affirmant que les démocrates tentent d'invalider les résultats des élections de 2016. Duke Collins, parlementaire républicain.
Ils ne peuvent rien produire de factuel. Le président n'a rien fait de mal dans cette affaire.
Ce vote historique place Donald Trump dans le club restreint des présidents dont on se souviendra à jamais. Sa mise en accusation doit être suivie d'un procès au Sénat à majorité républicaine. Donald Trump sera donc très probablement acquitté et restera en fonction.
Pour un décryptage de cette actualité, nous avons au téléphone le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville. Professeur Caesar, bonsoir.
Bonsoir.
Donald Trump, on le disait, est donc entré dans l'histoire comme le troisième président américain à subir une mise en accusation à la Chambre des représentants. Il y a 21 ans, jour pour jour, ce jeudi, Bill Clinton l'avait précédé. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci comparé au cas de Bill Clinton ou même d'Andre Johnson?
Alors, je dis d'abord que c'est un peu trompeuse parce que, en effet, Nixon a été accusé. Il s'est retiré avant, mais en effet, il a été plus ou moins condamné par le Congrès et puis il a dû démissionner Donc, une autre à ajouter à cette liste. Mais c'est un peu différent. Alors, Clinton, c'était sa deuxième terme. Il ne pouvait pas continuer à vouloir être président. Trump va être le candidat du Parti républicain. Donc, il a une autre occasion pour faire la campagne. C'est tout à fait différent dans ces deux cas-là. Et Johnson, c'est au 19e, c'est pas très intéressant.
Alors, est-ce que cette mise en accusation aura un impact quelconque sur les élections de 2020, aussi bien du côté de Trump ou même dans le camp démocrate?
Alors, à mon avis, ça va aider Trump, je crois. On verra, mais dans ce cas-là, il va dire que c'était une action tout à fait partisane, ce qui est vrai, et que en fait, c'était un aspect de contrecarrer le président sans vraiment une accusation qui est juste. Ça, ce sera sa campagne en 2020.
Alors, Donald Trump dénonce justement un acharnement des démocrates. Il dit attendre impatiemment l'ouverture de son procès au Sénat, le Sénat qui est dominé par les républicains. Que va-t-il se passer là-bas?
Alors, on verra exactement ce qui ça va passer, mais c'est pratiquement impossible qu'il va être condamné. Il y a une majorité républicaine au Sénat pour le Parti républicain. Et en tout cas, il faut une supermajorité pour le condamner, c'est-à-dire 2/3. Donc, c'est plus ou moins impossible. Et après un effort, il va être sûrement non pas condamné.
Alors, finalement, pour vous, c'était une perte de temps, cette affaire de procédure d'impeachment?
Pas une perte de temps, c'est un jeu politique. Alors les démocrates, ils ont essayé de l'humilier un peu. C'est un moyen pour eux d'avoir le soutien de leur propre parti politique. C'est vrai qu'il a déjà subi l'empêchement. Et ça va jouer dans la campagne, mais dans deux sens. On peut dire que c'était tout à fait injuste. Ça va aider le président. D'autres titres, c'est un moyen de détruire un peu le président dans la campagne. On ne sait pas exactement, mais comme je disais, je crois que c'est plutôt dans l'avantage du président.
Jim Caesar, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Virginie à Charlottesville. D'ailleurs, cette mise en accusation a ravi la vedette à la présidentielle de 2020. Les 10 candidats à l'investiture démocrate feront leur 6e débat ce soir à Los Angeles.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Également dans l'actualité ce soir, en Algérie, le président élu Abdelmadjid Tebboune a pris ses fonctions aujourd'hui en prêtant serment lors d'une cérémonie solennelle près d'Alger. Malgré sa victoire du 12 décembre, le puissant mouvement de contestation le considère comme illégitime. Eric Manirakiza.
Main droite sur le Coran, Abdelmadjid Tebboune a prononcé la longue formule prévue par la Constitution. Il a juré notamment de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'État, mais aussi d'agir en vue de la consolidation du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple. Tout juste investi, M. Tebboune a à nouveau tendu la main au Irak, qu'il avait déjà immédiatement après son élection, invité au dialogue pour bâtir une Algérie nouvelle. Je renouvelle mon engagement de tendre la main à tout le monde pour mettre en œuvre les revendications du Irak dans le cadre d'un consensus national, a déclaré aujourd'hui M. Tebboune, réitérant son intention de modifier la Constitution. Mais le mouvement qui agite l'Algérie depuis 10 mois lui avait opposé en masse une fin de non-recevoir dans la rue, affirma considérer M. Tebboune illégitime. Les promesses du nouveau président semblent bien en deçà des exigences de la contestation qui réclame notamment une constitution totalement nouvelle, reprochant à l'actuel d'avoir été taillée et retaillée à la mesure de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé ce jeudi un prolongement d'un an de sa mission de paix en République démocratique du Congo, la MONUSCO, qui va néanmoins voir le nombre de casques bleus baisser à 14 660 contre 15 900 actuellement. Le nombre de policiers déployés, lui, va augmenter. Dans sa résolution, le Conseil souligne par ailleurs la nécessité de progressivement transférer des missions de la MONUSCO au gouvernement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est la Minute Éco avec Irénée Herman Umbo.
Au Burkina Faso, le gouvernement attribue un contrat de 8,4 millions de dollars à Sogeas Atome pour la rénovation partielle de l'aéroport de Ouagadougou. Le financement du chantier, qui s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA, est assuré par le budget de l'État exercice 2019-2020 et le budget de la délégation aux activités aéronautiques nationales exercice 2020. Au Cameroun, le ministre des Transports a dévoilé les axes prioritaires de son département ministériel pour l'année 2020, sur un budget total de plus de 13 milliards de francs CFA, une enveloppe de plus de 9 milliards sera consacrée à l'investissement, a-t-il indiqué. Kenya Airways achève l'année 2019 avec des résultats financiers en dessous de ceux de 2018 selon le Conseil d'administration du transport national kényan. Il indique que les résultats sont inférieurs de moins 25% à ceux publiés pour la même période en 2018. En Afrique du Sud, MTN annonce la réintroduction de sa solution Mobile Money sur le marché local au cours du mois de janvier 2020. Le service baptisé Momo fonctionnera sur le système Ericsson Converged Wallet. Il permettra d'envoyer et de recevoir de l'argent, de payer pour des services prépayés comme l'électricité et de payer des marchandises à des points de vente sélectionnés.
Et Yacouba Ouédraogo nous a rejoint, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Liverpool rejoint Flamengo en finale du Mondial des clubs.
Oui, Liverpool s'est défait des Mexicains de Monterrey 2-1 en demi-finale à Doha au Qatar et affrontera samedi les Brésiliens de Flamengo dans un remake de la finale de 1981 pour le titre intercontinental. Le Guinéen Naby Keïta à la 12e minute et le Brésilien Roberto Firmino à la 91e ont permis aux Reds de l'emporter face à une équipe joueuse de Monterrey emmenée par l'Argentin Rogelio Funes Mori, buteur opportuniste en première période. En finale, Liverpool tentera de remporter le premier titre planétaire de son histoire après 3 échecs.
Le FC Barcelone et le Real Madrid font match nul dans le Classico.
0-0 hier dans un Camp Nou transformé en théâtre de revendications indépendantistes, le Barça et le Real campent ainsi sur leur position au classement où ils sont toujours premier et deuxième avec le même nombre de points, 36. Ciblé par des manifestations indépendantistes, ce sommet de la Liga, initialement prévu le 26 octobre dans le cadre de la 10e journée, avait été repoussé par la Fédération espagnole en raison de mobilisations et de heurts en Catalogne, consécutifs à la condamnation des dirigeants séparatistes. Hier, 10 personnes ont été arrêtées et 64 blessées lorsque la police a chargé des centaines d'indépendantistes qui ont mis le feu à une barricade à l'extérieur du stade.
En rugby, le Sud-Africain Tendai Ntawarira signe 1 an à Washington.
Le champion du monde avec les Springboks a signé un contrat d'1 an avec le Old Glory DC, le club de rugby basé à Washington. Tendai Ntawarira, 34 ans, qui a pris sa retraite internationale, 117 sélections après le sacre au Japon face à l'Angleterre, vient rejoindre le club de la capitale qui va intégrer une MLR en pleine expansion. Dès le 8 février, coup d'envoi de la saison, séparé en 2 conférences, Est et Ouest, la meilleure ligue rugby comptera 12 équipes, soit 3 de plus que cette année, puisqu'en plus de Washington, Atlanta et New England l'intégreront également.
L'agence antidopage russe conteste la mise au ban de la Russie.
La RUSADA a émis une recommandation de contester les sanctions prises à l'encontre de la Russie, mise au ban de la communauté sportive internationale pendant 4 ans, en raison des falsifications de données antidopage. L'agence antidopage russe va saisir le tribunal arbitral du sport de la question. La Russie a été privée par l'agence mondiale antidopage de participation pour 4 ans aux principaux événements internationaux, dont les Jeux olympiques 2020 et 2022 et la Coupe du monde de foot 2022. Elle est accusée d'avoir manipulé les données antidopage qu'elle a transmises à l'organisation. Cette mise au ban de la Russie prévoit que ses sportifs pourront participer aux compétitions, mais sous drapeau neutre et sans que l'hymne national ne soit joué.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Face à la recrudescence des attaques terroristes dans le Sahel, un sommet extraordinaire a réuni dimanche dernier à Niamey, au Niger, les chefs d'État des pays concernés. Le président nigérien et ses homologues ont réitéré leur volonté d'améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et de sécurité nationale et les forces internationales alliées. Certains habitants de Bamako donnent ici leurs impressions sur la force conjointe du G5 Sahel. Des réactions recueillies par Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
G5 Sahel, je pense que ça peut faire beaucoup de choses si, et même accepte d'aller ensemble les cinq pays. Mais il ne faut pas compter sur les efforts des autres continents pour nous aider. Je pense que le Mali peut financer, quand on divise les pourcentages, chaque pays peut financer leur armée.
Je
ne
vois aucun effort des G5 Sahel. Tout ce que je constate, nos soldats sont pris à longueur de journée.
Le G5 Sahel ne fonctionnera pas. Et nous sommes très heureux de constater que les Américains ont tout le temps indiqué que c'était une force de trop, que c'était une force qui n'était pas, dont la vision n'est pas claire, dont la mise en place n'est pas claire. Et au regard du fait que les armées de la sous-région, les armées des pays qui constituent le G5 Sahel, n'ont pas encore atteint le niveau où ils peuvent coopérer comme l'OTAN, comme d'autres armées.
Dans la suite de cette initiative-là, qu'on tienne compte des acteurs nationaux, des acteurs signataires, et des différentes forces vives de la nation, parce que le G5 Sahel ne peut pas être un embryon qui évolue tout seul et qui ignore les réalités des autres actions posées, notamment c'est inscrit dans l'accord pour la paix et la réconciliation, et aussi qui ne peut pas ignorer la présence des autres forces en présence sur le terrain.
Mais les résultats tardent à venir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter sur d'autres pays pour nous financer. Les peu de matériel que nous avons, il faut que ces chefs d'État comprennent qu'on doit faire la mutualisation et gérer la chose, surtout avoir des banques de données concernant ce qu'on appelle la communication, et que les informations circulent et que les moyens aériens que nous avons et les moyens matériels que nous avons qu'on mutualise une fois qu'il y a des attaques sur le Mali et que le Niger ou d'autres pays se préparent en conséquence. Si on arrive à faire la jonction, nous arrivons à éliminer tous les terroristes, nous arrivons à éliminer tous ceux qui sont contre les antinationales et ces apatrides, et nous irons le pays avec responsabilité.
On ne négocie pas sa souveraineté, notamment la souveraineté militaire. Moi, je conseillerais plutôt à nos cinq chefs d'État de faire des efforts communs. Le Mali, le Niger, le Burkina ont les mêmes réalités. Ces pays gagneraient à avoir des approches tripartites qui permettent de faire des patrouilles communes à leurs frontières, de permettre pourquoi pas les poursuites respectives dans leurs frontières. C'est comme ce que le Mali a fait avec la Mauritanie en 2011, quand la Mauritanie rentrait dans notre guerre que nous faisions de même. Il ne faut pas tout miser dans le même panier et je vois que nos chefs d'État sont en train de faire l'erreur monumentale de compter sur l'Europe ou bien sur la France pour assurer la sécurité de Sahel.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le G5 Sahel, réuni en sommet extraordinaire à Niamey, appelle la communauté internationale à plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Un appel lancé après la mort de 71 soldats nigériens à Inates, l'attaque la plus meurtrière visant l'armée nigérienne depuis 2015. Quelle stratégie face aux groupes armés dans le Sahel? Quel rôle pour la communauté internationale dans cette lutte contre le terrorisme? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le chef d'État français Emmanuel Macron séjournera en terre ivoirienne du 20 au 23 décembre prochain. Durant cette visite, lui et Alassane Ouattara, président ivoirien, se rendront à Boaké le 22 décembre. Les deux hommes d'État procéderont à la pose de la première pierre pour les travaux de reconstruction du marché central. Un marché parti en fumée depuis plus d'une décennie. La ville fait peau neuve pour accueillir les deux chefs d'État. Des travaux d'embellissement de la ville sont en cours. Les réactions des quelques habitants de Boaké au micro de Siriki Baro.
Aïcha, vendeuse de riz. Bon, ça nous fait plaisir parce que le coin est propre. On sent vraiment qu'il y a un changement au niveau du Boaké. Sinon, c'était pas ça. On prie Dieu que de la manière que le président a commencé avec le président Macron, ils n'ont qu'à faire tout possible de faire que Boaké soit comme avant. C'est ça qu'on souhaite, quoi. Faut pas qu'ils vont regarder nous les femmes. Parce que si on va regarder nous les femmes là, ils vont jamais faire leur travail. Donc faut pas qu'ils vont regarder les gens. Ils n'ont qu'à faire leur travail parce que c'est pour nous demain. Même si c'est pas pour nous, pour les enfants de demain, c'est pour eux.
Je suis là, Boubaka, et suis opérateur économique à Boaké. Depuis l'événement de la crise, nous n'avons jamais vu ça ici à Boaké. Surtout au niveau des infrastructures. On avait des problèmes avec la route, avec nos voitures. On passait dans des coins, on avait des problèmes. Mais par rapport à l'arrivée du président Macron, on voit que tous les coins sont en train d'être réhabilités. Sincèrement, on est très très content pour ça.
Kwame Daniel. C'est une bonne idée, mais ils doivent arranger les routes presque partout. Parce qu'il y a des coins, ils font d'autres coins, ils laissent d'autres coins. Ce n'est pas normal. Parce que quand on dit arranger un coin, normalement, c'est partout. Il n'y a pas d'autres coins, on doit laisser ou chose. Mais son arrivée, on lui souhaite bonne arrivée.
Doumbia Noura Mariato, étudiante en licence de géographie à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Boaké, aujourd'hui, est devenu comme un petit Paris. Hein. Les voies sont construites, les marchés ont été détruits, seront construits. Nous, on ne peut qu'être ravis. Et on aura l'honneur d'avoir le président français parmi nous, Emmanuel Macron. Ça, c'est déjà un grand pas. Et on félicite le président. Il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations. Et même concernant l'université, tout est rétabli là-bas. Ils sont en train de faire les amphithéâtres. En tout cas, on bosse dans un cadre sain. Donc, on peut nous remercier le président.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'année qui s'achève a enregistré une série de manifestations de Hong Kong au Chili et du Soudan à l'Iran. Dans plus d'une dizaine de pays, les citoyens sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Certains ont obtenu gain de cause, tandis que d'autres non. Le point dans ce reportage de Margaret Béchir que nous présente ici Irénée Herman Umbo.
En France, les manifestants ont enfilé leurs gilets jaunes, exigeant un meilleur salaire et l'arrêt de la hausse des prix. Au Soudan, le peuple a renversé le régime après 40 années de règne d'un dictateur qualifié de génocidaire. En Haïti, ils ont réclamé la démission du président et la poursuite de fonctionnaires corrompus. À Hong Kong, les manifestants ont commencé à tenir tête aux autorités chinoises au sujet d'une loi d'extradition. Ils ont ensuite élargi leurs revendications pour inclure plus de démocratie dans la gestion publique.
L'ancienne génération n'a pas réussi à faire face à la plus grande crise que l'humanité ait jamais connue.
Même les écoliers sont descendus dans la rue pour exiger des adultes un meilleur entretien de la planète, notamment dans des pays comme l'Irak, le Liban et l'Équateur. En Iran comme ailleurs, des citoyens ont tapé du poing sur la table, réclamant un changement dans la gestion des affaires publiques. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à cet effet les gouvernements à écouter les préoccupations de leur peuple.
Il est clair qu'il existe un déficit croissant de confiance entre les personnes et les institutions politiques et des menaces grandissantes contre le contrat social. Le monde lutte également contre les effets de la mondialisation et des nouvelles technologies qui ont accru les inégalités au sein des sociétés.
Certains gouvernements ont essayé de répondre aux revendications, tandis que d'autres utilisent la force pour se maintenir au pouvoir. En Irak et en Iran, par exemple, des centaines de manifestants ont été tués par les forces de sécurité alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Par contre, en France, au Chili, en Équateur, en Bolivie et à Hong Kong, d'autres ont vandalisé et pillé.
Ils ont le droit de manifester pacifiquement. Malheureusement, les gouvernements ont souvent eu recours à une force excessive, arrêtant des personnes arbitrairement. Parfois même, ils les tuent, les assassinent. C'est illégal. Les autorités responsables des décisions et des meurtres doivent répondre de leurs actes. Aussi, les manifestants ont l'obligation de se comporter de manière responsable.
Un élément que toutes les protestations ont en commun, c'est un changement d'attitude.
La principale chose que nous observons dans beaucoup de ces endroits est la rupture de la barrière de la peur. Les gens ont plus peur de sortir dans la rue et de critiquer ces politiciens, ce qui dans le passé était tabou.
Dans de nombreux cas, selon M. Dewashi, ce sont les politiciens qui craignent désormais le pouvoir du peuple. Une grande partie de ce pouvoir provient de l'organisation par le biais des médias sociaux, qui est à la fois un outil puissant et une vulnérabilité.
Les gouvernements ont réalisé que les coupures d'Internet sont un excellent moyen de fragiliser l'organisation des manifestants. Mais nous voyons bien qu'ils se réorganisent. On ne pouvait pas les empêcher.
À l'approche de 2020, rien n'indique que ces mouvements de protestation, alimentés principalement par les médias sociaux, vont ralentir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Si vous êtes en train de fumer, éteignez votre cigarette, en tout cas. Pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé indique que le nombre de fumeurs dans le monde a diminué, soulignant ainsi que les mesures visant à réduire le taux de tabagisme portent leurs fruits. Les femmes fument de moins en moins et les hommes sont en passe de suivre la même tendance. Un résumé de ce rapport par Lisa Schlein à Genève, relaté par Nathalie Barche.
Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé observent un changement majeur dans la lutte contre le tabagisme qui tue chaque année plus de 8 millions de personnes. Les données de 143 pays montrent une baisse du tabagisme pour la première fois chez les hommes à la suite d'une augmentation régulière au cours des deux dernières décennies. Durant cette période, l'OMS signale que 60 millions des quelque 1,4 milliard de fumeurs dans le monde ont cessé de fumer. La plupart de ces réductions sont imputables aux femmes. Cependant, le directeur de la promotion de la santé de l'OMS, Roediger Kretsch, a déclaré que la consommation de tabac par les hommes au cours de la même période avait augmenté d'environ 40 millions.
Mais maintenant, nous constatons pour la première fois une baisse de la consommation. L'OMS prévoit qu'il y aura 2 millions d'hommes de moins qui fumeront en 2020 et 5 millions de moins en 2025. Moins d'hommes utilisant des produits du tabac signifie que moins de personnes subiront la douleur et la mort évitable qu'ils provoquent.
Monsieur Kretsch dit que la baisse de l'usage du tabac montre que les mesures de lutte anti-tabac fonctionnent. Il affirme que des mesures telles que la fiscalité, l'interdiction de la publicité et du marketing, ainsi que du tabagisme dans les lieux publics et l'emballage neutre des produits du tabac découragent les gens de fumer. Le rapport constate qu'environ 43 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans fument. Les garçons consomment deux fois plus de tabac que les filles. Il indique que l'Asie du Sud-Est a les taux de tabagisme les plus élevés, tandis que l'Afrique subsaharienne a les plus bas. Par ailleurs, l'OMS indique que la plupart des gains dans la réduction de l'usage du tabac ont été réalisés dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, tandis que le continent américain est la région la plus performante du monde, l'Europe a le rythme de déclin de la consommation de tabac le plus lent.
Et c'est la fin de cette édition mise à nom de par Joselle Morissin. Michael Dubeski était à la console. John Linden vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.